Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui va nous permettre d'aller à la rencontre des lauréats de la 24e édition du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière de l'année qui s'est tenu à Bercy ce 12 avril à l'invitation de Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui a personnellement proclamé le palmarès de cette nouvelle édition devant une salle comble, remarquant, je la cite, que le prix manifeste une nouvelle fois une curiosité d'esprit et une vitalité toujours intacte qui honore à la fois les organisateurs, le jury et les lauréats, on ne peut pas mieux dire. Michel Bon, président du grand jury du prix Turgot, a bien voulu accepter de revenir sur cet événement, devenu au fil des années le grand rendez-vous de la littérature économique. Bonjour Michel.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver sur notre antenne. Avant de vous passer la parole, je salue tout simplement les deux lauréats des principaux prix. Le Grand Prix Turgot tout d'abord, ce fut un duo, Augustin Landier et David Tesmar. Et le lauréat du prix du jury, Philippe Erlin.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Michel, une grande soirée pour honorer cette nouvelle promotion. Quels sont vos commentaires ?
Tout d'abord qu'en effet, c'était une grande soirée. Il y avait presque 400 personnes au ministère des Finances. C'est pas mal autour d'un sujet quand même plutôt austère, qui est le livre d'économie, quoi. Donc c'est sympathique. Aussi, on peut dire un grand cru. On a eu à choisir entre 180 livres là-dedans. On en avait isolé 6 qui ont été les 6 nominés, comme disent les Anglais, et 2 qui ont obtenu l'un le prix spécial et l'autre le prix Turgot, qui sont vraiment des livres très intéressants. Je pense que c'est une très bonne année pour le prix Turgot.
Bien. Alors, on va peut-être rentrer dans une présentation plus complète. On commence peut-être par le duo de jeunes économistes qui donc ont reçu ce prix pour leur parution « La société translucide » aux éditions Fayard.
C'est un livre donc qui est écrit par Augustin Landier, qui est avec nous, et David Tesmar, qui malheureusement n'est pas là parce qu'il est retenu par des cours ailleurs. Augustin Landier et David Tesmar sont tous les deux très jeunes, ils ont 36-37 ans, et ils ont fait des études très solides, mais pas en France, il faut bien dire, enfin une partie en France, mais pas mal, soit aux États-Unis, soit en Grande-Bretagne. Ce qui donne d'ailleurs à leur livre souvent un intérêt parce qu'ils choisissent des exemples anglo-saxons et auxquels on est finalement moins habitués, quoi. Et là, Augustin Landier est professeur à l'économie de Toulouse, donc qui est un peu actuellement le phare de l'enseignement de l'économie en France. Et l'autre, David Tesmar, est professeur dans différents endroits et notamment à l'école des hautes études commerciales, HEC. Ce qui n'est pas mal non plus. Alors, leur livre s'intéresse à un sujet qui pourrait être plus exploré qu'il ne l'est, honnêtement, qui est qu'au fond, l'économie de marché, on est maintenant en gros tous d'accord que c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, quoi. Ouais. Mais que l'économie de marché, pour que ça marche bien, suppose une bonne information, de façon à ce que les acteurs sur le marché soient orientés par cette information totale, complète, pure et parfaite, diraient les économistes. Et c'est justement ce sujet qu'explore la société translucide, Augustin Landier.
Merci tout d'abord, ça a été une très bonne surprise et je suis très heureux de pouvoir parler ici de ce livre. Alors, cette idée, effectivement, que le marché, c'est pas le laisser-faire, ça fonctionne pas tout seul le marché. C'est ce que cette crise nous a rappelé très brutalement et c'est un petit peu le point de départ de ce livre, d'essayer de réfléchir sur les règles qui sont nécessaires pour qu'un marché fonctionne et puis la question de savoir qui sont les arbitres, qui doit siffler les pénalties sur les marchés. Donc, en ce sens, c'est effectivement la question de la régulation, en quelque sorte, pour employer le mot un peu technique, qui est l'origine de ce livre. Mais ce que nous avons essayé de faire, c'est de présenter cette question qui, en soi, peut sembler très théorique et ardue, de manière très concrète. Parce que voilà, les questions que la finance nous a posées ces 3 dernières années, et puis plus généralement, les questions qu'on rencontre dès qu'il s'agit de médicaments qui ont des effets secondaires dangereux, dès qu'il s'agit de questions de nourriture, ce sont des questions extrêmement concrètes que les citoyens rencontrent quotidiennement. Et donc les régulateurs, les organisations qui sont chargées de la gouvernance des marchés sont au cœur de nos vies plus que jamais, c'est ce que la crise est venue nous rappeler. Donc on a voulu s'interroger sur le fonctionnement de ces organisations et réfléchir sur leur avenir. C'est un petit peu le point de fuite de ce livre que de réfléchir sur la manière dont les technologies contemporaines vont révolutionner, au fond, la manière dont on peut faire fonctionner un marché, le surveiller et pousser beaucoup plus loin, finalement, l'aspect collectif de cette surveillance des marchés.
Alors c'est d'ailleurs un des aspects assez, non pas nouveau, mais enfin rare quand même de votre livre, qui est qu'en général on pose un diagnostic très solide et puis on dit qu'il faudrait que ça s'arrange, quoi. Mais on est plus flou sur la façon dont on peut arranger les choses. Tandis que vous, dans ce domaine, donc comment rendre la société plus transparente, translucide, vous dites, vous proposez des pistes qui paraissent assez praticables finalement.
Alors, là encore, elles viennent un peu du bon sens. Nous, économistes, on était des universitaires spécialisés dans la finance, comme tout le monde. Dans les années 2005-2006, on voyait bien que tous nos amis travaillaient sur les produits titrisés dans les banques, gagnaient beaucoup d'argent. On se demandait ce que c'était, comment ça fonctionnait. On n'a jamais réussi à avoir des données qui nous auraient permis finalement de poser ces questions, d'ouvrir la boîte noire. Donc on en était presque un peu gênés parce qu'on se sentait très ignorant finalement. On avait devant le praticien, on était en décalage. Et notre situation était celle de tous les citoyens au fond. C'est-à-dire que la finance était cette sorte de boîte noire dont personne ne pouvait parler, sauf ceux qui étaient à l'intérieur et qui, eux, avaient l'impression d'être initiés en quelque sorte. Et finalement, ex post, on se dit qu'on aurait peut-être été beaucoup plus véhément sur l'exigence de données, de transparence. Et donc c'est finalement, je pense, dans cette direction que la régulation doit aller. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, si vous voulez, le contenu des bilans des banques, le contenu de certains produits financiers restent des choses très opaques, des boîtes noires. Il serait important qu'au moins avec un décalage dans le temps, c'est-à-dire que peut-être que pour des raisons assez profondes, on ne peut pas voir en temps réel le contenu du bilan des banques, ça peut poser des questions de panique, etc. Mais au moins avec un décalage dans le temps, il est crucial qu'on puisse observer ces ingrédients. D'autant qu'on est entré dans une époque où le coût de stockage et de diffusion de ces informations est devenu voisin de zéro. Et ça, c'est vraiment une révolution, si vous voulez. Parce qu'il y a 10 ans, il fallait des ordinateurs très, très coûteux. Le stockage de l'information était quelque chose d'extrêmement coûteux. Là, on est entré dans un monde complètement différent.
On peut, donc, on a les moyens pour pouvoir, effectivement, donner plus de transparence.
C'est un peu ça. En ce sens, la situation dans laquelle on est vraiment nouvelle, elle est inédite. On va pouvoir offrir aux citoyens des masses d'informations. Après, ces informations, il faut les digérer, il y a un danger d'une espèce d'avalanche d'informations. Mais le pari qu'on fait et qu'on essaye de justifier dans le livre, c'est que la société dans son ensemble a une sorte d'écosystème qui peut digérer ces informations. Il y a de l'intelligence collective, il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont dans la société civile et qui ne sont pas forcément ceux qui sont dans les bureaux des régulateurs ou des ministères. Ce qui ne veut pas dire que les régulateurs ou les ministères sont incompétents, mais qu'ils doivent s'appuyer, se leverager, diraient les anglo-saxons, sur cette espèce d'intelligence collective qui peut justement les aider dans leurs tâches.
Et d'ailleurs, c'est bien ce que salue la ministre, en parlant de votre ouvrage, que vous aviez une forte capacité à décrypter une crise de l'opacité et d'offrir en retour les bonnes jumelles à ceux qui souhaitent comprendre l'économie d'aujourd'hui, le sens de la régulation et des réformes financières en cours. Donc c'est difficile de dire mieux, Michel.
Elle a d'ailleurs du mérite parce que quand même, il étrille pas mal les régulateurs dans son bouquin.
Absolument, c'est pour ça que je le salue.
Avec des arguments que j'ai trouvé, moi qui ai pas mal connu certains régulateurs, avec des arguments que j'ai trouvé assez convaincants à dire. Ouais. Et le remède qu'il propose, encore une fois, est le bon remède. C'est-à-dire que aussi longtemps que la régulation est nécessaire, ça personne ne le conteste, mais aussi longtemps que ça se passe dans une boîte noire, il y a plus de chances qu'on se trompe. Ça, c'est une évidence, je crois.
Alors, votre duo s'était fait connaître par une publication qui avait fait grand bruit à l'époque, le Grand Méchant Marché. Vous avez l'intention de récidiver donc pour faire un troisième.
Ah, mais oui, c'est pas encore en préparation, mais bien sûr que oui. Et on pense que le point de fuite finalement de tout ce travail, c'est de réfléchir. Enfin, en ce moment, le grand sujet qui nous occupe, c'est cette question de l'open data qui est un petit peu un mouvement mondial.
En français, dans le texte
Alors, il n'y a pas vraiment de traduction française. L'institution française qui s'occupe de ça, qui a été créée très récemment, s'appelle Etalab. Vous pouvez aller sur son site web. C'est une initiative gouvernementale qui consiste à essayer de rassembler, de faire un audit, si vous voulez, de toutes les données qui pourraient être utiles aux citoyens pour comprendre la société, voire pour créer de la valeur entrepreneuriale.
Voilà, l'open data, donc.
L'open data.
D'accord.
Bien, écoutez, il nous reste une nouvelle fois à vous dire bravo pour cet ouvrage remarquable et pour cette distinction.
Merci.
Donc, Michel, peut-être on va se tourner vers le lauréat, cette fois-ci, du prix du jury. Alors, généralement, ces deux prix récompensent des ouvrages un peu différents, l'un plutôt grand public et l'autre plutôt, on va dire, technique. Là, je crois que cette année, ils sont quand même relativement sur un plan voisin.
Oui, oui. D'ailleurs, quand même, en général, on essaye de choisir des livres lisibles. Mais c'est vrai que cette année, ils sont tous les deux très lisibles. Ça, je le dis pour ceux qui seraient intéressés de les acheter. Il faut les acheter d'ailleurs parce qu'ils sont intéressants, très intéressants tous les deux. Alors Philippe Erlin, lui, est un tout petit peu plus vieux, mais enfin quand même très jeune, 43 ans. Et il est mathématicien, je dirais. Et c'est un spécialiste d'un mathématicien qui commence à devenir assez connu, qui s'appelle Mandelbrot, qui a été un peu qui a créé des lignes de fracture, je dirais, dans la pensée mathématique, quoi. Donc, son livre s'intéresse lui aussi au marché, mais en le prenant d'une façon tout à fait différente du livre de Landier et Tesmar, disant, au fond, le marché, c'est quand même une immense masse de comportements individuels ou collectifs. Tout ça peut se prédire plus ou moins, se modéliser. Et en effet, on ne s'est pas faux de ces dernières années de modéliser tant qu'on a pu, jusqu'au jour où ces modèles sont allés, on l'a vu avec la crise financière, droit dans le mur. Et donc, c'est à ce sujet qu'il s'intéresse à travers ce livre, donc, Finance, le nouveau paradigme. Au fond, pourquoi est-ce que les mathématiques, qui paraissaient un soutien si sûr à la prédiction du marché, ont échoué?
Oui, parce qu'en voilà, en fait, ce qui s'explique le livre, c'est que quand la théorie moderne de la finance est née dans les années 60 à Chicago, avec la théorie du portefeuille, Sharpe, Markowitz, etc., l'outil qui a été utilisé pour essayer d'estimer les mouvements des actifs financiers sur les marchés, ça a été l'outil le plus utilisé communément et qui fonctionnait dans un certain nombre de domaines, notamment en physique, qui est la courbe de Gauss, la loi normale, ou une forme de cloche, on l'appelle aussi la courbe en cloche. Et à la même époque, Benoît Mandelbrot, qui ne s'était pas encore vraiment fait connaître, il se fera connaître plus tard, dans les années 70, en découvrant les fractales. Lui, il s'intéressait à l'économie depuis toujours. Il s'est dit, mais au fait, est-ce que les actifs financiers correspondent vraiment à la courbe de Gauss? Il a fait quelques calculs sur leurs ordinateurs de l'époque qui étaient vraiment très rudimentaires, mais bon. Et il s'est rendu compte que non, qu'en fait, l'incertitude sur les marchés était beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. Et le problème, bon, c'est qu'on ne l'a pas écouté. On a continué la théorie s'est développée avec la loi normale, y compris en la trafiquant un peu, mais pour essayer de tenir compte des valeurs extrêmes, mais sans que ce soit vraiment convaincant. Et tout cela, bon, quand le marché ne connaît pas de crise, ça marche, quoi. Donc voilà, le problème, c'est que quand il y a des variations importantes dans le prix des actifs, une chute importante du marché immobilier américain, par exemple, bah, les produits qui ont été construits dessus, sur des raisonnements gaussiens, comme les subprimes, s'écroulent complètement. Et c'est des événements qui, d'après la courbe de Gauss, ne devaient jamais arriver, ou avec une probabilité d'un sur un million. Mais en fait, quand on raisonne à partir des lois de puissance ou les lois de Pareto, qui sont aussi plus connues, on se rend compte que c'est des événements qui peuvent arriver beaucoup plus souvent qu'on ne le pense.
Mmh. Enfin, l'exemple, pour vulgariser, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est qu'on peut prévoir avec la courbe de Gauss une grande crue, mais la crue du siècle, celle-là, c'est impossible de la prévoir avec la courbe de Gauss. Enfin, en résumé, c'est ça. D'accord. Alors, vous êtes inspiré de Mandelbrot, mais aussi de Français, qui d'ailleurs, notamment, ont été reconnus par le prix Turgot, et en particulier Christian Walter, qui avait fait paraître un ouvrage très technique. Alors là, pour le coup, plus technique que le vôtre, qui, à certains points, anticipe sur ce que vous avez ensuite développé dans votre ouvrage. Le virus B, c'était
voilà,
ça. Là.
Voilà, c'est-à-dire que Benoît Mandelbrot est le premier à avoir identifié le problème et à l'avoir posé, et ensuite d'autres chercheurs y ont travaillé. Il y a eu Daniel Jason Weber en France,
c'est ça.
Qui a eu le prix Turgot en 2000 pour l'économie des extrêmes, un livre très intéressant que je cite dans
tout
le mien.
Fait.
Il y a Christian Walter aussi, il y a Didier Sornet en Suisse, Edgar Peters en Belgique, etc. Et puis celui qui a vraiment fait connaître ces idées-là dans le monde entier, c'est Nassim Taleb avec le Signe Noir, qui est un des essais les plus vendus dans le monde. Il a dépassé les 3 millions d'exemplaires, donc c'est assez exceptionnel. Et donc ça a vraiment contribué à faire connaître toutes ces théories de loi de puissance et à expliquer que la courbe de Gauss ne fonctionnait pas du tout dans les phénomènes économiques, enfin, ou très peu dans les phénomènes économiques ou financiers. Voilà.
Et vous preniez un exemple, d'ailleurs, aussi, qui est tout à fait accessible au grand public, c'est celui du Monopoly.
Voilà, c'est-à-dire, dans le livre, moi, j'ai souhaité vraiment présenter ça de façon didactique pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie et à la finance, mais sans qu'il y ait à aucun moment de barrière des mathématiques.
Oui, c'est ça.
Bon, moi, je suis économiste d'abord, même si j'ai fait des mathématiques, l'économétrie, mais je suis d'abord économiste et je veux comprendre à chaque étape, quoi. Je ne veux pas me lancer dans les équations sans... Il y a une facilité... à balancer les équations, bon, pour moi, il est toujours important, à chaque étape mathématique, de comprendre ce qui se passe. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre dans la critique que fait Mandelbrot, c'est que ce n'est pas simplement on utilisait une loi mathématique, statistique, la courbe de Gauss, et puis elle ne marche pas, on en utilise une autre. Le fait de changer de loi, ça veut aussi dire que tous les présupposés économiques de base changent. C'est-à-dire que le fait que les cours ne soient pas gaussiens, ça implique, je l'explique dans le livre, que les marchés ne sont pas efficients au sens où on l'entend, au sens où ça a été défini par Fama. Ça traduit aussi le fait que l'information n'est pas parfaite, que les gens ne sont pas rationnels. Ça, c'est les choses qu'avait mis en évidence la finance comportementale. Bon. Et que donc, ça remet en cause les fondements de l'école de Chicago et ça remet aussi en cause les fondements de la théorie néoclassique née à la fin du 19e, qui constitue le socle de tous nos raisonnements économiques. Donc, changer de loi mathématique, c'est aussi, c'est en fait changer de point de vue et changer de paradigme, c'est d'où le titre. On change complètement nos conceptions économiques, notre appréhension des phénomènes économiques au niveau d'une entreprise, comme au niveau d'une économie ou d'un marché financier.
Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin des modèles ou bien qu'on va arriver à mettre en place des modèles qui tiendront compte à la fois de la loi normale et de la loi de puissance ?
On aura d'autres modèles, mais disons que croire qu'on pourra un jour tomber sur un modèle simple comme Sharpe-Markowitz, où en mettant quelques valeurs, on obtient tout de suite un portefeuille optimal, bon, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut abandonner, quoi. Le fait d'utiliser les lois de puissance, c'est-à-dire des lois qui tiennent compte, qui appréhendent mieux les phénomènes extrêmes, ça nous dit aussi que le monde est beaucoup plus incertain, qu'il y a beaucoup plus d'événements, de signes noirs, d'événements extrêmes, et qu'on ne pourra pas mettre ça dans un petit modèle simple. Voilà, donc c'est aussi changer notre façon de croire qu'on peut prédire, c'est aussi ça.
L'humilité, quoi.
Voilà, c'est surtout l'humilité et la prudence que ça doit nous apprendre, nous enseigner. Voilà.
Ok, bien, mais écoutez, il nous reste à nouveau à féliciter nos lauréats, peut-être d'ajouter tout simplement qu'il y avait, lors de cette grande distribution des prix, deux prix spéciaux qui ont été récompensés. D'une part, Jean-Marc Daniel, qui faisait partie des nominés pour son ouvrage « Histoire vivante de la pensée économique », a reçu une mention d'honneur dite de la pédagogie et que Christine Lagarde saluait comme une contribution intellectuelle majeure constitutive d'un manuel de référence durable de la pensée économique. Et par ailleurs, un deuxième prix spécial qui est le prix EFFA Turgot de la francophonie. EFFA, ça veut dire Forum francophone des affaires, et qui a été remis à M. Jacques Bonjaveau pour la révolution numérique dans les pays en développement chez Duno. Et enfin, le prix des ouvrages collectifs à la revue d'économie financière pour l'euro en 2009, sous la direction de Pierre Jaillet et de Jean Pisani-Ferry, puisque normalement le grand prix récompense au maximum un duo d'auteurs, mais plutôt des auteurs à titre individuel. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, Michel.
Très bien, oui, non, un mot du livre de Jean-Marc Daniel. Oui. C'est l'économie pour les pas tout à fait nuls, son livre. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un certain intérêt pour l'économie, sans être du tout un grand spécialiste. Et alors, il va chercher chez tous les auteurs ce qu'il faut en retenir. Et franchement, à la fin, on se sent un économiste plutôt pas nul du tout, quoi.
Et je me souviens de votre mot. Vous me disiez que si, lorsque vous étiez étudiant, vous avez lu ce livre, vous auriez gagné beaucoup de temps.
Ben oui, peut-être même j'aurais gagné même de plus grands concours, on ne sait pas.
Bien, bien. Messieurs, encore bravo. Michel, merci à vous. Et donc, à l'année prochaine pour le prochain prix Turgot. Merci à vous. Thank you.